Que diriez-vous si je vous disais que vous êtes des martyrs ? Est-ce que vous voudriez être des martyrs ? Eh bien, il n'y a pas longtemps, c'est ce qui m'est arrivé. Alors que j'étais en train de discuter avec ma chef et mon président d'association, des choses auxquelles je faisais attention en tant que chrétien, comme par exemple les pensées que je pouvais nourrir dans mon esprit, comme l'attention que je portais à mon comportement ou la vigilance que je devais avoir face au péché, je me suis fait accuser de martyr de ma religion. Alors j'ai premièrement pris cela comme quelque chose de péjoratif et j'ai voulu m'en défendre. Mais non, je suis pas un martyr. Mais bon, cette parole, elle m'avait marqué. Et donc, comme elle m'avait marqué, je me suis mis à rechercher dans la Bible le mot martyr pour me rendre compte qu'en fait, au final, on ne le trouve pas dans la Bible. Martyr, ça vient du grec martus, qui désigne une personne qui a souffert pour attester de la vérité de la religion chrétienne. Tiens, c'était intéressant, ça a aiguisé un peu ma curiosité, parce que la définition dit que c'est celui qui souffre pour attester de la vérité. Et si ce mot était au final pas si péjoratif que ça pour un chrétien ? Le martyros est d'ailleurs celui qui rend témoignage selon l'appel de Jésus dans les Actes des Apôtres. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je fais une petite pause pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, on est parti en disant que est-ce qu'on voulait être des martyrs ? Est-ce qu'on prendrait bien le fait que nous soyons des martyrs ? Donc, le martyr est un témoin. Et nous sommes tous appelés à être des témoins de la grâce de Dieu dans nos vies, des témoins de son amour et de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait encore pour nous, parce que c'est comme ça qu'on témoigne, c'est au travers de ce que l'on a vécu que l'on peut témoigner des choses. Donc nous sommes des témoins de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. Bon, sauf que la notion de martyr, elle ajoute tout de même une dimension de souffrance. On n'est pas un martyr sans souffrir. Quand on parle de martyr, on pense à ceux qui ont souffert ou qui sont morts pour leur foi. On peut le lire dans Apocalypse, Apocalypse 6, 9. « Je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Alors je me suis demandé s'il fallait dire « ceux qui souffrent » ou « ceux qui ont souffert ». Car le titre de martyr doit-il être attribué seulement après la mort d'une personne ? Ou peut-il être donné du vivant d'une personne ? Dans l'Église catholique, la canonisation d'un martyr, donc l'acte solennel par lequel le pape décrète qu'un serviteur de Dieu doit être inscrit au catalogue des martyrs, et donc ici des saints martyrs, se fait après la mort de celui qui a souffert pour sa foi, un petit peu en reconnaissance de ce qu'il a subi. Donc en général, le martyr, c'est celui qui a souffert jusqu'à la mort. Mais nous allons le voir, si être chrétien signifie être un martyr ou un témoin, alors je pense que ce titre peut être tout à fait imputé à celui qui vit encore et qui atteste de la vérité de sa foi. Après la résurrection de Jésus et son ascension au ciel pour retourner auprès du Père, les premiers chrétiens se sont organisés en communauté. Les apôtres témoignaient de ce qu'ils avaient reçu et vu de Jésus, et ils continuaient de faire vivre le royaume de Dieu sur terre, en prêchant la parole et en guérissant les malades. Et on voit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc vous imaginez bien que ça passait pas inaperçu auprès des personnes religieuses de l'époque, auprès des chefs religieux, et ça les agaçait beaucoup. Ils étaient remplis de jalousie, et donc ils cherchaient à mettre en prison les apôtres ou à les faire mourir. Dans Actes 5, versets 27 à 33, on lit « Après les avoir ramenés et les présentés au Sanhédrin », parce que ça c'est le passage où est-ce que les apôtres ont été emprisonnés, ils ont été libérés par l'ange, et donc du coup ils ont été emprisonnés parce qu'ils témoignaient de leur foi dans le temple et dans les places publiques, et donc ça a embêté les religieux que le message de Jésus se propage. Et donc, après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin, le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Et versets 40 et 42, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans la maison, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Alors on voit que malgré les difficultés, malgré l'opposition, les apôtres y persévèrent dans leur témoignage, et cela même s'ils devaient en souffrir. Le verset nous dit même qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Alors j'y vois aujourd'hui quelques similitudes avec notre société qui réglemente de plus en plus, qui interdit d'enseigner le nom de Jésus sous prétexte de laïcité et qui en tout cas ne souhaite pas trop en entendre parler. Donc des conditions qui peuvent être parfois similaires à ce que les apôtres vivaient et malgré tout persévérer dans le témoignage. Le martyr le plus connu est certainement Étienne qui fut lapidé à Jérusalem en l'an 47 après Jésus-Christ. On lit le récit de sa lapidation dans les Actes des Apôtres, et après avoir été accusé à tort pour avoir proféré des paroles blasphématoires, alors que la Bible nous dit que c'était un homme plein de foi et de puissance, accomplissant de grands prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple, eh bien, face à ces accusations, il va se défendre dans un discours qui témoigne du plan de Dieu depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Et ce témoignage va lui valoir d'être lapidé. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Alors ici aussi, face aux accusations, on voit que Étienne a choisi de témoigner malgré tout de la vérité. Et cela jusqu'à ce que ça lui coûte la vie même. Donc, dire la vérité, témoigner ce en quoi nous croyons, ne sera pas toujours bien accueilli, et cela nous mettra parfois dans des postures difficiles, mais le Seigneur nous envoie dans le monde pour être ses témoins, malgré les persécutions. On le voit aussi dans Matthieu 10, il le dit clairement à ses disciples, où il dit « Je vous envoie » en leur expliquant ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils risquent, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne les envoie pas. Ils vont vivre des persécutions, mais Dieu les envoie malgré tout. « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. » « Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Eh bien, ne redoutons pas non plus de souffrir et allons juste, soyons fidèles jusqu'à la mort et Dieu nous donnera la couronne de vie. Il y a d'autres exemples de martyrs dans la Bible, comme par exemple Jean le Baptiste, qui lui fut décapité par Hérode à la demande de sa femme Hérodiade. Pourquoi encore une fois ? Parce que Jean le Baptiste dénonçait le mariage incestueux d'Hérode à sa nièce Hérodiade, épouse de son demi-frère. Cependant, Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Luc 3, versets 19 à 20. Jean le Baptiste, c'est quelqu'un qui avait été consacré bien avant sa naissance. Et sa mission était de préparer la venue de Jésus. On voit dans plusieurs passages que Jean ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Dans Marc, commencement de l'évangile de Jésus, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est lui, la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main et il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Jean le Baptiste, il me fait penser un petit peu à ces personnages de films américains. Je ne sais pas si vous allez voir de quoi je parle, mais souvent dans les films américains, on voit un homme sandwich, vous savez, avec des pancartes autour du cou, etc., qui dit « Repentez-vous, la fin est proche !» Je ne sais pas pourquoi, mais souvent dans les films américains, il y a toujours ce personnage. Enfin, souvent, la dernière fois, je regardais une série et puis il y avait qui sortait d'un fast-food, un homme avec une pancarte comme ça, où il était marqué « God loves you », etc. Et donc, du coup, on voit en Amérique qu'il y a souvent des hommes sandwich comme ça qui proclame soit la fin du monde, soit que Jésus nous aime. Alors bien que nous sommes pas ici pour juger les gens, à l'image de Jean, d'Étienne ou de Jésus, eux prêchaient la repentance et le changement d'attitude. On voit aussi que Jean le Baptiste faisait des reproches à Hérode en lui disant que c'était pas bien ce qu'il faisait. Alors on est appelé à prêcher justement ce changement d'attitude et la repentance pour que d'autres puissent s'ajouter à l'Église et reconnaître que leur comportement n'est pas digne de ce que le Seigneur nous appelle. Donc indirectement, nous sommes tous des martyrs de notre foi, des témoins de ce que nous croyons. Souvent on me dit « je suis croyant mais pas pratiquant » et moi je dis « c'est pas possible ». C'est impossible de vivre indifféremment de ce que l'on croit. Ce que l'on croit nous nourrit et forcément va influencer nos choix et notre vie, nos prises de décision, et cela nous mènera forcément à avoir des situations de désaccord ou d'incompréhension. Si un martyr est une victime qui sacrifie sa vie à une cause, ou encore celui qui par les souffrances qu'il endure témoigne de sa foi, alors je crois que nous devons tous être des martyrs. Être un martyr nous amènera certainement à souffrir et à devoir tenir notre corps en bride, à nous discipliner, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens 9, versets 25 et 27. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Donc, cette parole que l'on prêche, on doit nous-mêmes l'accomplir parce qu'il est bien dit aussi « de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres ». Daniel a refusé de suivre l'ordre du roi en se prosternant devant la statue d'or. Il ne s'est pas prosterné et quand le roi lui a demandé de se justifier, il lui a répondu « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se détruit lui-même ? Dans un autre passage, on voit aussi « Mais avant tout cela, on vous arrêtera et on vous fera souffrir. On vous livrera aux maisons de prière pour vous juger et on vous mettra en prison. On vous conduira devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. » Alors, vous pourrez être mes témoins. » Donc on voit que on pourra être amené en prison, on pourra être amené devant des rois, des gouverneurs, devoir se justifier. Et c'est alors que l'on pourra être les témoins de Jésus en témoignant de ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Jésus ne l'a pas caché à ses disciples, il leur a dit qu'ils allaient souffrir pour le témoignage. Est-ce que nous, nous sommes prêts à souffrir pour être des témoins ? Dans Luc, on voit deux passages où Jésus envoie ses disciples en mission. La première fois, il envoie 12 disciples en mission pour proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades en leur donnant puissance et autorité pour chasser les démons et guérir les maladies. Et plus loin, dans Luc 10, on voit que c'est 70 disciples qu'il envoie au devant de lui dans tous les endroits où lui-même devait aller après. En fait, ils avaient pour mission d'aller préparer la venue de Jésus et son futur passage dans les villes où est-ce qu'ils étaient envoyés. On voit dans la Bible que ces hommes, ce n'étaient pas des surhommes. On lit même dans les Actes que les gens étaient étonnés de l'autorité avec lesquelles les disciples parlaient alors que c'était des hommes sans instruction. Et pourtant, Jésus les a envoyés, même si c'était comme des brebis au milieu des loups. Sur son appel, Jésus les envoie dans la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc les disciples sont partis pour témoigner que le royaume de Dieu allait s'approcher de chacun. Ils sont partis pour préparer les cœurs à entendre le Messie. De la même manière, nous devons mettre nos aptitudes au service de Dieu, au service du royaume de Dieu, pour faire connaître la vérité et préparer le retour du Seigneur. Allez vers les brebis perdues, prêchez, le royaume des cieux est proche, nous dit Matthieu 10. C'est ce que nous parlait Javier la semaine dernière. Il nous parlait justement du royaume de Dieu et que Jésus n'était pas venu instaurer une religion, mais faire connaître et vivre le royaume de Dieu sur terre. Notre mission en tant que témoins est de prêcher ce royaume aux personnes qui nous entourent. Et si leur accueil n'est pas favorable, eh bien nous n'en sommes pas responsables. Et nous pourrons secouer la poussière de nos pieds en sortant de chez eux. Quand les disciples ont été envoyés, ils ont été envoyés pour prêcher la bonne nouvelle et ils devaient être reçus par les gens qui étaient prêts à les recevoir. Ceux qui n'étaient pas prêts à les recevoir et qui les renvoyaient, eh bien ils devaient secouer la poussière en image de « on a fait ce qu'on devait faire, mais nous ne sommes pas responsables de votre mauvais accueil ». Tous ceux qui entendent l'évangile sont responsables de ce qu'ils font. Nous ne sommes pas responsables si les autres rejettent le message du salut. Notre responsabilité, elle est dans le fait de leur annoncer avec clarté et fidélité ce message. Alors Christ nous lance un appel, mais il ne force personne. Il ne nous oblige pas à faire ce que nous n'avons pas envie. Et c'est à nous de choisir d'entrer dans cet appel ou pas. Le meilleur exemple reste toujours celui de Jésus. Dans Apocalypse 1, versets 4 à 6, on lit « Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept églises qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Amen. Jésus est notre exemple, il est le témoin fidèle, et nous ne sommes peut-être pas nous toujours fidèles dans notre témoignage, mais ce n'est pas ça qui fait que nous devons nous décourager dans notre témoignage. Il faut persévérer, persuader que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et je vais finir avec deux passages qui résument un petit peu toute cette pensée. Dans Ésaïe 43, « C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. » Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer ? Et Timothée 2, 4, versets 1 à 8 nous dit « C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Notre mission est donc de témoigner ce que Christ a fait, de qui il est, et de dire aux hommes qu'il n'y a pas d'autre Dieu que ce Dieu-là. Alors, c'est parfois compliqué, en tout cas, on peut trouver ça parfois compliqué, mais le témoignage se fait de manière orale, mais il se fait aussi par notre vie, par le fait de venir à l'église, par le fait de pouvoir dire aux gens qu'on ne fait pas certaines choses parce que du coup nous sommes croyants. Et donc, témoigner demande forcément de manifester quelque chose afin que ça se voit. Mais Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires, simplement de partager aux autres que Dieu est le seul Dieu et que nous croyons en ce Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait penser maintenant, le fait d'être des martyrs. Moi qui pensais au début que c'était plutôt une insulte, quelque chose qui n'était pas positif dans ma vie de croyant, d'être un martyr de ma foi. Eh bien, aujourd'hui, j'ai changé mon point de vue. Et si être martyr est être un témoin, eh bien, je veux être un martyr de ma foi et je veux être un martyr pour le Seigneur. Amen.